Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur la Radio Mondiale, votre rendez-vous quotidien avec le ballon rond. Et nous commencerons en France en se disant encore 2 ans. Et Didier Deschamps dira adieu au bleu. Le champion du monde 98 qui a offert à la France sa 2e étoile en 2018 abandonnera son banc après la prochaine Coupe du Monde. Le temps d'améliorer peut-être son incroyable palmarès de sélectionneur. Son poste pourra-t-il échapper à Zinedine Zidane? Un aigle devenu super eagle. Peut-être avec des super pouvoirs. Qui sait, le Malien Eric Schell a été nommé à la tête de la sélection du Nigeria pour remettre sur le bon chemin un groupe de joueurs finalistes de la dernière CAN et les conduire à la prochaine Coupe du Monde. Nottingham Forest sur le podium de la Premier League. En alignant une 6e victoire consécutive, les Reds des Midlands ont rejoint Arsenal au classement. Qui sont ces trublions qui se mêlent à la course au titre au sortir de l'épuisant Boxing Day? Je suis sûre que Philippe Doucet a la réponse. Bonjour Philippe.
Notre métier, c'est de poser des questions, pas tellement d'avoir les réponses.
À vous, c'est d'y répondre. Moi, c'est de les poser. Bonjour Philippe et bonne année 2025. Bonne année, monsieur Philippe. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure en se rencontrant. Donc, je révèle un secret, n'est-ce pas? Bonjour, Patrick Juillard.
Bonjour, Annie. Bonjour à toutes et à tous. Et évidemment, tous mes meilleurs vœux, le meilleur pour vous en cette nouvelle année 2025.
Voilà, et notre suite de saison dans le studio de Radio Foot International, n'est-ce pas, Naïm? Bonjour.
Salut, Annie. Salut à tous.
Bonne année.
Et bonne année. Bonne santé, surtout à tout le monde.
Oui,
important.
C'est important en ces temps où beaucoup de virus circulent grâce au fait.
On se gastro, notamment.
On se couvre.
Gastro ou grippe, beaucoup de grippe aussi.
J'embrasse Jean-Luc Rossi.
David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. J'ai fait mon temps aussi avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026, c'est très bien.
Tic-tac, tic-tac, pourrait-on dire. Il a lui-même lancé le compte à rebours hier en annonçant, sans l'annoncer, son départ de l'équipe de France. Didier Deschamps a décidé de ne pas aller au-delà de son contrat qui le mènera donc jusqu'à la prochaine Coupe du Monde et espérons, qui sait, jusqu'au 19 juillet, qui sera la date de la finale.
Ou pas.
Qui se disputera à New York. Mais si, il a quand même pas mal d'arguments pour y arriver. Lui qui a conduit les Bleus à cette 2e étoile un soir de juillet 2018 au stade Loujniki de Moscou. Et on sait que dans le stade de Loussaï, il y a 2 ans, c'était aussi passé pas très loin. Il devait donc, en tout cas, Didier Deschamps, être sur TF1 pour parler pièce jaune, n'est-ce pas? Cette campagne menée avec Brigitte Macron pour récolter en France la petite monnaie au profit des enfants hospitalisés. N'oublions pas quand même, le but c'était ça théoriquement. Et puis au détour comme ça d'une phrase, d'une courte phrase d'ailleurs, le sélectionneur des Bleus, boum, a retourné le sablier. Est-ce que c'est des propos innocemment prononcés, Patrick Juillard?
Non, c'est pas innocemment prononcé puisqu'on a appris via une interview dans l'équipe du président de la fédération Philippe Diallo que Didier Deschamps avait annoncé en primeur à son président de fédération qu'il allait arrêter. Qu'il avait décidé d'arrêter après la Coupe du Monde 2026 et qu'il lui avait fait cette annonce à la fin du mois de décembre. Donc en fait, l'information était déjà connue en lieu. Donc l'instance ne pourra pas dire que Deschamps l'a pris en traître.
TF1, c'est la chaîne des Bleus et de l'équipe de France. Donc c'était un peu logique. C'est le diffuseur. Mais qu'ils le disent comme ça, on voit Brigitte Macron.
Justement, je pense que Didier Deschamps, il a l'art du contre-pied. Alors c'était pas le plus grand dribbleur du monde quand il était joueur, mais dans sa communication, il a souvent eu l'art du contre-pied, l'art de ne pas répondre quand on attend une réponse et l'art, en revanche,
de le dire,
de donner une grosse info quand on n'attend rien. Et là, il vient de le refaire. Donc moi, je suis pas un grand fan de Deschamps et de sa manière de faire jouer l'équipe. Mais là, pour le coup, en termes de communication et de manière de surprendre son monde, je trouve qu'il a bien joué.
Mais Philippe Doucet, on peut se dire pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, à pratiquement deux ans ou un an et demi,
c'est une bonne question.
D'une Coupe du Monde qui est quand même une échéance primordiale et peut-être avec sur le chemin quand même une Ligue des Nations et des qualifs Coupe du Monde.
Surtout la Coupe du Monde, évidemment. Oui. Mais je pense justement qu'il a profité d'un temps faible. D'abord, il n'y a pas de match avant fin mars.
Avant d'annoncer une équipe.
Avant la fin mars, donc déjà,
deux mois et demi.
Il profite d'un temps faible au sens où il n'y a pas de match, il ne phagocyte rien,
il n'accapare pas la
ça, c'est le côté
sauf
plutôt. Ça, c'est le côté plutôt positif. Le côté moins positif, je pense, c'est que. Il a dû sentir quand même, ça fait quand même des mois et des mois, qu'il y a un certain nombre de gens qui disent que ça suffit.
Il le dit, j'ai fait mon temps.
Oui, je trouve étonnant qu'il emploie lui-même cette formule.
Ah, c'est très surprenant.
Qui est plutôt celle de ses critiques habituelles, des gens qui le critiquent.
Pas dans sa tête,
hein. Et donc, et puis en plus, dire j'ai fait mon temps et dire la phrase d'après, mais je suis toujours super motivé, ça fait bizarre. Bon, mais en dehors de cette petite faille linguistique, on va pas s'attacher à ça. Je pense surtout qu'il a senti quand même qu'il y avait un vent qui était un peu défavorable dans l'opinion, qui avait un besoin de renouvellement et autres, et il a voulu couper l'herbe en fait sous les pieds de tous les gens qui vont l'embêter pendant un an et demi. Mm-hmm. Là, il pourra dire attendez, je vous ai annoncé que je partais, je pars, etc. Oui. Maintenant, c'est aussi un défaut, c'est que ça démobilise, démobiliser des gens.
Est-ce que ça peut
desservir les objectifs des Bleus?
Alors, pour ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, compte tenu du niveau des éliminatoires...
48 qualifiés, hein, rappelons-le.
Oui, puis compte tenu des éliminatoires, il faut vraiment le faire exprès. Par contre, je trouve qu'il anticipe, qu'il anticipe les critiques et autres de ses détracteurs. Peut-être aussi qu'il anticipe pour moi deux choses. La première, c'est le niveau de performance de l'équipe de France qui est en déclin. Est-ce qu'il prend de court, peut-être? Est-ce qu'il anticipe un éventuel raté sportif? Parce qu'on se rend compte que l'équipe de France joue quand même nettement moins bien depuis quelques temps et qu'il n'y a rien qui va dans le sens d'un arrangement.
Oui, en même temps, c'est
arrangement.
Difficile toujours pour des champions de maintenir
c'est surtout quand on a de moins en moins de joueurs de ballon. En fait, c'est surtout ça. Je pense que le niveau de l'équipe de France est en train de s'affaisser parce qu'on n'a plus de joueurs réellement pour jouer au ballon.
Il n'y en a pas ou on les sélectionne pas?
Non, je pense qu'il n'y en a pas. Et puis ceux qui pourraient correspondre à ça n'ont pas le niveau pour jouer en équipe de France. C'est quand même un certain niveau, l'équipe de France.
Il y en a qui se révèlent parfois.
Oui, mais je pense qu'on est quand même sur une génération où le ballon et la qualité technique et le niveau de performance est peut-être moins mis en avant. Puis la deuxième chose, je trouve, c'est que c'est très tôt. Un an et demi avant la compétition, c'est très tôt. On a eu des précédents, Santini en 2004, il y a eu Conte également en Italie avant l'Euro 2016, mais ce n'était pas un an et demi avant. Parce qu'effectivement, c'est un temps faible, il n'y a pas de match en ce moment, ça ne phagocyte pas. Sauf qu'on sait que sur les un an et demi qui arrivent, à chaque rassemblement de l'équipe de France, il va y avoir ça aussi.
Ça, c'est certain.
Oui, il va y avoir ça côté aussi.
Mais en même temps, se mettant dans la tête des joueurs, est-ce qu'ils peuvent se dire « Oh ben, je m'en moque parce que de cette Ligue des Nations, je m'en moque de la Coupe du Monde parce que l'entraînement des sélectionneurs s'en va ?»
Il ne faut pas se moquer de la compétition, parce que je ne crois pas que ce soit dans l'état
d'esprit.
Mais je pense que peut-être dans le relationnel, le fait de savoir que votre sélectionneur s'en va sur du court terme, pour certains, je pense notamment à Kylian Mbappé, peut-être que on a tendance à un peu moins écouter, moins respecter, moins être dedans.
C'est des compétiteurs aussi.
Mon sens, au contraire, je pense que, alors je vais prendre le contre-pied de mes confrères, je pense que ça peut permettre aux joueurs de se projeter sur autre chose, de se dire ok, Didier Deschamps, il a fixé une date butoir, il ne sera plus là après la Coupe du Monde 2026. Moi, je serai encore là, donc je dois prouver aux futurs remplaçants de Didier Deschamps que j'ai ma place. Et donc, je pense que ça peut créer une émulation. Je pense aussi que ça peut décomplexer Didier Deschamps dans ses choix. Mm-hmm. C'est-à-dire que maintenant qu'il a annoncé qu'il partait, il va vraiment faire l'équipe qu'il veut faire et ne pas se dire « Bon, on va toujours me juger à l'aune de l'avenir, il ne faut pas insulter l'avenir. »
Deschamps
tout.
Faisait toujours l'équipe qu'il voulait, Patrick. Hein.
Oui et
il
ne
s'est jamais bridé sur quoi que ce soit, Deschamps. C'est peut-être justement ce qu'on peut lui reprocher.
Et
qu'à un moment donné, il aurait peut-être dû prendre plus de risques, tenter plus de paris que de faire ce qu'il a fait parfois.
Il a pris parfois des paris inspirés quand il prend Pavard et Lucas Hernandez avant la Coupe du Monde 2018 qu'on voit venir de nulle part et qui s'avère de très bons choix.
Et même Kylian, quand il est très très jeune,
il fait à l'inverse parfois des paris ratés, mais on ne peut pas dire qu'il ne fait pas de paris.
Je reste du principe qu'il peut-être qu'il a compris, parce que c'est un monsieur qui est intelligent et qui connaît très bien le football.
Ça, c'est sûr.
Je pense qu'il a compris que sportivement, l'équipe de France se dirigeait vers une période moins faste et qu'il anticipe peut-être certaines contre-performances. Alors, pas sur les éliminatoires, parce que le groupe est d'une faiblesse quasiment risible, mais justement sur la prochaine Coupe du Monde.
Philippe, bon, alors en plus, cette prochaine Coupe du Monde, il y aura une nouvelle formule, il y aura plus de matchs, enfin tout ce qu'on sait. Donc, tout est aussi un peu hypothétique. Mais Philippe, est-ce que Deschamps, on le connaît, c'est quand même aussi un meneur d'hommes. Il est respecté pour son palmarès. Il a quand même fait trois Coupes du Monde avec ses équipes. Bon, la première, il venait d'arriver seulement à un quart de finale, mais ensuite, c'est deux finales de Coupe du Monde.
À part l'Euro 2020, tout est réussi hein, en termes de parcours.
Mais même
à part l'Euro 2020, tout est réussi.
Il va en demi-finale à chaque fois. Il va... Donc, les joueurs auront sans doute envie encore de le suivre en se disant « on a des chances d'arriver loin ».
S'il a certes lassitude, c'est que vraisemblablement, il a senti que, comme tous les entraîneurs de cet âge, la distance se faisait de plus en plus importante avec la nouvelle génération.
Et encore, il a vécu un changement de génération.
Il le vit correctement. Ouais. Je ne sais pas s'il le vit très bien à chaque quotidien, parce que ce n'est plus les footballeurs de son époque, tout
mais
simplement.
Oui,
ça a beaucoup changé. Mais malgré tout, il tient la route, il tient la barre, il n'est pas largué, il est peut-être pas au top. En termes de encore une fois d'entente avec tous ces joueurs, ces jeunes joueurs, etc., est sûrement pas au top. C'est toujours sûrement un peu difficile pour lui, par exemple avec Mbappé et d'autres. Mais pour autant, il tient la barre et il se dit voilà, un an et demi, je vais tenir sur cette durée-là.
Non, mais on n'est pas
mais
dans
au-delà,
sa tête.
Au-delà, il aura eu du mal.
Il y a peut-être de la lassitude. Il y a peut-être aussi des raisons familiales qui font qu'on lui a dit bon, maintenant, on aimerait bien t'avoir un peu plus avec
lui. Oui, alors il y a une petite phrase quand même.
Ça ne se joue pas à trois mois, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être après l'Euro 2024. C'est pas au mois de janvier, alors que tu peux le faire au mois de septembre. Il y a trois mois d'écart, ça ne change rien.
Il n'a pas annoncé sa retraite.
Non, il y a une petite phrase qui dit il y a une vie après.
Il le dit.
Il y a une vie après, et je ne sais pas de quoi elle sera faite. Donc, oui, sans doute. Non, DTN, ou peut-être aussi.
La fédération peut-être.
Aussi.
Ou entraîneur d'un club. Hein. Il l'a déjà fait. Il l'a fait d'une manière intéressante. En tout cas, il a dirigé 165 matchs et il a quand même accumulé 106 victoires.
C'est un des meilleurs taux de l'histoire du poste.
Le bilan Deschamps, je vous le dis, mis à part l'Euro 2020, le bilan Deschamps est plus que positif.
Après, la qualité de jeu est en chute libre.
Les irrésistibles français, hein, qui sont les supporters organisés, on va dire, parlent du plus grand sélectionneur. Bon, c'est des jeunes, je pense.
C'est un des plus grands sélectionnaires
de l'équipe de France.
Oui, en tout cas, sur la longévité, c'est le plus grand.
Sur la longévité, proportionnellement, tu es obligé de reconnaître que c'est lui qui a joué le plus
de
compétitions.
Sur le jeu, c'est pas sûr.
Et non, c'est deux septennats quand même, hein, finalement.
Oui. C'est plus que certains présidents qui lui jalouseraient ça. Il n'a jamais dit.
C'est 12 ans,
tu as raison, on est passé au quinquennat.
Annie, il n'a jamais dissous l'équipe de France. Et ça, il faut lui en être reconnaissant.
Pas mal, jolie pirouette. Alors évidemment, aujourd'hui, les débats veulent s'intéresser aussi qui pour succéder à Didier et Deschamps.
Le suspense, c'est insoutenable.
Et alors là, voilà, exactement. Est-ce que la question se pose vraiment?
Jésus-Christ, ça va. Ça brûle.
Je m'en occupe.
Ça fait plaisir. Merci, Jésus.
Alors, Zizou, Christ, c'est évidemment une petite phrase de Jamel Debbouze, l'humoriste, le comédien. Et c'était durant la cérémonie d'ouverture des JO où l'un passait la flamme olympique à l'autre. Il lui transmettait, et c'est donc un extrait de cette cérémonie. Mais un extrait qui tombe à pic, parce que qui d'autre que Zizou pour reprendre le flambeau, Naïm Moniol.
Alors, ça paraît logique que ce soit lui.
On a l'impression
c'est le
qu'il
choix
y a une
des
Vox
supporters.
Populi,
oui,
là,
c'est
voilà.
Le choix des supporters, c'est le choix des médias, puis c'est très certainement sa volonté aussi. Sinon, il aurait très certainement repris un club. Après, ce qui est paradoxal, c'est que Zinedine Zidane va prendre l'équipe de France, paradoxalement, peut-être à un moment où il y a le moins de bons joueurs de ballon dedans. Et c'est ça aussi qui me fait.
Lui, l'artiste.
Voilà, c'est ça qui me fait un petit peu tiquer. Et pour ceux et celles qui pensent qu'il suffit d'asseoir un mec sur un banc de touche pour que les joueurs jouent autrement. Il y en a qui pensent.
Qui sait
vous pensez qu'on va avoir Koundé, Manu Koné qui vont nous faire des roulettes
avec les stages de préparation qui sont de plus en plus longs,
peut-être. Et donc on attend, mais moi je suis mesuré sur. Alors pas sur le fait qu'il soit nommé, parce que ça paraît plus ou moins évident. Sur le succès d'Eda dans l'équipe de France, je suis plus mesuré, mais c'est un autre débat.
Patrick Juillard.
Moi, pour moi, c'est le candidat naturel. C'est un peu le choix du roi, entre guillemets, puisqu'on attend presque qu'il se déclare pour lui offrir le poste. Hein.
Non, puisque là encore, le fait qu'il refuse des clubs à droite à gauche,
non, mais
c'est une déclaration un peu
là, on
un peu
est dans l'implicite. Et de
est-ce
toute
qu'il
façon,
a vraiment besoin de se déclarer?
En revanche,
même.
Moi, ce n'est pas sur le fait qu'il apporte peut-être un style nouveau, qu'il sélectionne des joueurs d'un autre type et qu'il n'ait pas les mêmes critères que Deschamps. Je n'ai pas de doute là-dessus. Là où on risque d'être déçu, en revanche, c'est que les supporters et le milieu du foot en général reprochent souvent à Deschamps son côté un petit peu langue de bois, un peu, il se passe pas grand-chose dans ses conférences de presse. À ce niveau-là, Zidane, c'est pas non plus...
Il a progressé quand il était au Real Madrid,
je dis pas,
désolé.
Sur la forme, il sait faire, il n'y a aucun souci.
Il faut qu'il fasse les conférences
revanche,
en espagnol.
C'est pas quelqu'un coutumier des grandes envolées, des conférences hyper captivantes quand même. Donc à ce niveau-là,
ça dépend peut-être des questions, Patrick Juillard.
L'attente pourrait être déçue, mais sur le jeu, je pense qu'il y aura
ça
forcément une touche. Zidane, c'est quand même l'un des plus grands, sinon le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de France. Mm-hmm. Il apportera sa touche s'il est sélectionneur.
Oui, ça paraît clair. Il a lui aussi un palmarès. Philippe, est-ce que Philippe Diallo, le président de la fédération, a vraiment le choix? On l'a entendu récemment dire « Quoi, Zidane? Non, je ne l'ai même pas appelé, je ne l'ai même pas contacté. » Avec Superbe, comme ça, quand on lui demandait si il avait reconduit sans réfléchir. Oui, mais il n'est plus là. Sans réfléchir, Didier Deschamps, enfin, ou en tout cas, après l'Euro.
C'est Noël Le Graët surtout qui avait dit ça, mais...
Non, Philippe Diallo, récemment, quand il a parlé
sur
la chaîne L'Équipe.
Mm-hmm. Il était déjà sous contrat.
Oui, bien sûr. Donc, bon. Lui est arrivé, le contrat est là.
Mais
lui parler, dans le sens échanger, savoir ce qu'il pense.
Je trouve que c'est le plus gros défaut de l'annonce très tôt de Didier Deschamps, c'est ça. C'est que tout le monde... Parce qu'il n'y aurait pas Zidane. Bon, il y aurait quelques
des supputations,
mais Zidane va être de façon permanente là. Évidemment. C'est le gros défaut pour Didier Deschamps. C'est que dès qu'il va faire un mauvais match, tout le monde va dire « Ah, vivement que Zidane soit là !»
Il y a 10 minutes,
Or, ce sera à 15 mois, 12 mois, 9 mois avant ce passage-là. Donc, c'est un peu dommage.
Vaut mieux que ce soit Zidane
maintenant,
que Dupraz.
Tu peux avoir un Willy Sagnol, c'est pas interdit.
La question ne se posait pas forcément. Non, mais Thierry Henry, par contre, la question peut se poser. Thierry Henry peut être un bon candidat.
Il n'aurait pas de bonne relation avec le président de Fédé.
Willy Sagnol fait du très bon travail en Géorgie.
Oui.
Il a beaucoup de choses à faire avec ce pays. Non, mais je parle sérieusement. Il n'y a pas de raison qu'il les quitte.
Il l'a fait d'ailleurs. Bah, déjà.
Bien sûr. Il y a le fait qu'il pourrait être sélectionneur de son pays. C'est plutôt pas mal aussi. Ça,
j'y crois pas trop, mon cher.
Donc, puisque la question était sur Philippe Diallo et le président de la fédération, c'est certain que lui aussi va avoir à gérer ça. Ces gens qui, de façon permanente, vont lui dire bon, alors c'est quand Zidane ? Est-ce que c'est bien lui ?
Est-ce qu'il a l'envergure, Philippe Diallo ? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il est arrivé là un peu par effraction.
Il a été élu cette fois-ci. Maintenant, il est élu.
Certes, mais il était en place.
Oui, mais à partir du moment où il est là, on fait avec. C'est pas, il y a un mec qui est nommé, puis il y en a un autre qui parle.
Je suis d'accord. Non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il a l'autorité, en fait?
Il a plutôt le profil.
Il a le titre. À partir de ce moment-là, qu'il ait l'autorité ou pas, ça change pas tellement, parce qu'il a le titre, en fait. Qui va parler à sa place?
Il a plus le profil d'un chef de cabinet de l'Élysée que d'un président de la République, si on prend une comparaison politique.
Si on veut vraiment faire les choses intelligemment, plutôt que de laisser, moi je suis d'accord avec ce que dit Philippe, de laisser un gap de 15 mois, 16 mois, puisque Didier Deschamps a annoncé qu'il serait plus sélectionneur à partir de 2026, Diallo contacte Zidane, il part du principe qu'il le nomme ou il ne le nomme pas, et il le dit très vite, il dit voilà, à partir de 2026, c'est Zidane qui le suit.
Ouais, mais il peut
et
pas
à ce moment-là, on fait ça.
On peut pas le faire maintenant.
Si, il peut.
Ça serait pire,
mais ça serait pire que la situation actuelle.
Non, je crois pas, parce que
ça a été fait ailleurs, et je pense que ça se passait pas très bien.
D'abord, que ce soit nommé maintenant ou pas, tu sais plus ou moins que ça va être lui. En tout cas, c'est celui qui sera mis tout de suite sur le tapis. Et la deuxième chose, c'est que ça va éviter des supputations, de se dire, il y a peut-être un tel qui va venir. Toi, je te parlais de Sagnol, Philippe parle d'Henri. Tu vas avoir des supputations dans tous les champs, tu peux parler de plein de gens. Au moins, c'est réglé. Et puis, jusqu'en 2026, tu te finis avec Deschamps et tu sais que derrière, tu as une continuité. Et on arrête de supputer et on arrête de poser la question. Parce que je te l'ai dit il y a des minutes, je te le redis, à chaque rassemblement, tu vas y avoir droit.
Oui, mais
nous, on évitera quand même de faire un débat à chaque fois, parce que ça nous paraît clair pour l'instant.
Oui, mais moi, je te parle pour toi.
Dans nos esprits.
Il y aura d'autres choses.
Conférences de presse et machin, tu vas voir les mecs.
Il y aura d'autres sujets. Il y aura peut-être des retraites de cadres des années 2010. Il y aura peut-être des problèmes avec Kylian Mbappé, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver.
Il y a déjà
et puis, vu la faiblesse du groupe et vu la faiblesse des adversaires que
bien, hein.
l'équipe de France aura jusqu'à la Coupe du Monde, à mon avis, ce n'est pas ça qui va mettre une zizanie folle dans le groupe.
Ce
n'est pas très grave.
Autant donner la réponse tout de suite et autant dire on met Zidane.
Après, ce n'est pas à Deschamps de le dire. Ça, c'est effectivement, c'est plus à
Diallo.
C'est ce qu'il a dit, oui.
À ce moment-là, il faut le nommer.
Mais il ne le fera pas.
Vous pensez que ça va occulter beaucoup de choses? Je pense que Didier Deschamps, quand il a envie de répondre à une question, il le fait. Et quand il n'a pas envie, il ne le fait pas. Donc,
oui, puis il ne le fait pas quand les journalistes en ont envie. Il le fait quand lui en a envie.
On se souvient de l'après-finale de Coupe du Monde où on avait envie de poser des questions là-dessus. En mars, il a dit la page est tournée.
Bien sûr.
Et on n'a jamais rien su de plus.
Il n'est jamais là où on l'attend, en fait.
Mais bon. Bon, ben, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas compté les jours, mais il reste à peu près un an et demi avec Didier Deschamps, oui, pour nous et donc pour les Bleus et pour tous les supporters.
Ça va être très long avant la Coupe du Monde de 2026.
Oui,
ça va être très
en même
long.
Temps. Ah bah, il y aura une Ligue des Nations pour remonter
motivé.
Non,
la Ligue des Nations n'intéresse pas assez.
Mais si, Philippe, ils l'ont déjà remporté une
juste
fois.
Juste pour éviter quelques matchs amicaux, la Ligue des Nations.
Ouais, non, je ne dis pas que c'est une mauvaise épreuve. Au contraire, moi, j'aime bien la
formule.
Elle est courte. Elle devrait même servir de qualification à la Coupe du Monde. Ce serait beaucoup plus intéressant que les qualifications.
Par contre, je vous suis là-dessus.
En dehors de ce détail, malheureusement, demi-finale et finale de la Ligue des Nations n'attireront pas énormément. C'est pas...
Ça dépend.
Il y a des quarts maintenant, d'ailleurs.
France joue.
Il y a des quarts.
On est en quart.
Oui, il y a des quarts cette année.
On est en quart contre la Croatie.
C'est un peu toujours les mêmes équipes, toujours les mêmes adversaires, on les connaît.
Tu vas voir.
Et oui, l'inflation.
Bientôt la Ligue des Nations à 48. Ça sera plus simple. En phase finale, ça sera plus simple.
Comme ça sera 54, ce sera toute l'Europe.
Comme ça, on fait Chypre, Israël en éliminatoire.
Et les Géorgiens seront là aussi.
Peut-être qu'on fera entrer le Groenland s'il n'est pas annexé d'ici là par les États-Unis.
Qui sait ? Qui sait ? Allez, il y a bien les îles. Il y a bien les îles Féroé. Pourquoi il n'y aurait pas le Groenland?
Il y a des Dom-Tom, donc il pourrait y avoir le Groenland. Ouais.
Allez, on continue. Eh bien, on parlait d'un sélectionneur, celui des Bleus. On va passer à un autre sélectionneur, mais là, on va franchir la Méditerranée et rejoindre l'Afrique.
A very good evening to you. Thanks for joining us on the Tuesday edition. Super Eagles of Nigeria have a new coach. He's Eric Chale.
Le Nigeria a enfin un nouveau sélectionneur. Après plusieurs mois de flottement et d'intérim, Eric Chale a été nommé à la tête des Super Eagles. De prendre en main une équipe triple championne d'Afrique.
Eric Chale, vous avez bien entendu.
On entend le clavier de Fela, là, c'est magnifique.
N'est-ce pas? Mais oui, et Laurent Salerno quand même,
un
sa
grand
petite
monsieur,
patte.
Un grand maestro.
Exactement. Alors, il a pris du galon en passant du statut d'aigle à super aigle. Le sélectionneur des aigles du Mali lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire a été nommé hier soir à la tête de ses Super Eagles du Nigeria. Et déjà, le défi est de taille, il lui faudra qualifier cette équipe à la prochaine Coupe du Monde. On a l'habitude du Nigeria dans cette compétition mondiale. Et là, ils sont un peu loin dans les éliminatoires, plus relevés cette fois, mais on va y venir. D'abord, est-ce un choix surprenant de la part du Nigeria qui semble avoir pourtant un bon réservoir d'entraîneurs? Ils ont d'ailleurs remporté 3 CAN avec des locaux et le dernier, on s'en souvient, c'était
Stéphane Keshi,
exactement, c'était en Afrique du Sud en 2013. Alors lui succède à Augustine Egwuavoen,
qui est un peu Egwuavoen, le pompier de service permanent de cette équipe.
Intérimaire d'ailleurs. Il n'avait qu'un statut et Finidi George.
Et qui fait souvent du bon travail d'ailleurs.
Là, il est, Eric Chale, le premier Africain non nigérian à diriger les Super Eagles. Et il supervisera aussi ceux qui iront au CHAN quand même. Mm-hmm. Et puis la prochaine CAN à la fin de l'année.
Ils sont déjà qualifiés. Ouais.
Exactement. Mm-hmm. Est-ce que ça vous surprend de la part du Nigeria cette nomination, Philippe Doucet?
Oui, c'est quand même une surprise puisqu'on le Nigeria est habitué aux anglophones en général.
Oui.
Va plutôt chercher du côté des Pays-Bas ou de pays de ce genre-là son sélectionneur.
Et quand ils ne choisissent pas.
Quand ils ne choisissent pas un local.
Un local.
Donc, alors,
il y a quand même eu un franco-allemand, un certain Gernot Rohr.
Bien sûr, mais depuis, c'est vrai que c'était beaucoup de locaux qui ont eu des carrières diverses. Il y a eu une bonne CAN, mais par contre, les qualifs Coupe du Monde sont mauvaises. Ouais. Élimination pour la dernière Coupe du Monde contre le Ghana, qui n'a pas été pardonnée non plus. Donc, c'est une équipe qui demeure singulièrement irrégulière.
Est-ce que ça illustre pas justement les remous un peu?
Et je supposais donc qu'ils iraient chercher un entraîneur un peu plus haut de gamme. On avait parlé d'Hervé Renard, on avait parlé de coach très expérimenté. Je pensais qu'ils s'orienteraient là-dessus. Eric Schell est un joli pari, mais c'est vrai que c'est pas le grand nom que peut-être le Nigeria attendait.
Mmh. Patrick Juillard.
Il va arriver en plus avec un staff francophone. Lui-même l'est aussi, donc il va falloir qu'il s'adapte. Je ne sais pas quel est son niveau d'anglais. Je pense qu'il parle l'anglais et tout ça, mais il faut un bon niveau. Ensuite, il a une pression énorme dès ses débuts, puisqu'il y a deux matchs d'éliminatoire.
On en est déjà à la cinquième et sixième journée.
Alors, en mars, le Nigeria joue
Le Nigeria joue sa tête. Il a trois points en quatre matchs. Il n'a pas gagné un match pour l'instant. Il y a trois nuls, une défaite. Le groupe est abordable, mais s'il continue de laisser des points en route...
Je vais donner les adversaires
c'est
du groupe.
C'est le Rwanda qui est en tête.
Le Rwanda, où ils iront jouer pour la cinquième journée. Il y a l'Afrique du Sud ensuite, le Bénin, les Lesotho et Zimbabwe qu'ils recevront pour cette sixième journée.
Voilà, donc ils ont deux matchs a priori abordables, puisque Rwanda, là-bas, plus réception du Zimbabwe. Mais d'un autre côté, s'il ne prend pas 6 points tout de suite, il va avoir, il risque de se faire broyer par la presse d'entrée. Quoi.
Naïm, il a une chance quand même. Je veux dire, il avait le Mali. Ils sont arrivés en quart de finale de la CAN et c'était une belle campagne.
Mais là,
il y a Osimhen et il y a Lokman.
Il a raté aussi les premiers matchs d'éliminatoire à la Coupe du Monde.
C'est pour ça qu'il se fait virer.
Son bilan avec le MC Oran est pas incroyable. Il y a 5 victoires, 5 défaites.
Ça marchait bien au début et
bon, c'est bric à brac. Donc en plus, son passé récent de technicien ne le met pas sur une dynamique très, très importante. Après, il y a effectivement un très bon réservoir de joueurs au Nigeria, personne ne dit le contraire, principalement sur le secteur offensif plus que défensif. Mais le problème, c'est qu'avoir des bons joueurs, c'est très bien. Après, il faut savoir les faire jouer.
Et bah alors
c'est
justement,
le problème de beaucoup de sélectionneurs.
Écoutons-le, Eric Schell, parce qu'on connaît le personnage. On sait qu'il a des idées quand même très précises de ce qu'il veut, en tout cas. Et il l'a confié aux médias en ligne RP Média.
Le métier de coach ou de sélectionneur, c'est pas un métier facile. Tu fais pas l'unanimité dans ton travail. Maintenant, moi, ce que je demande et ce que je veux, c'est faire l'unanimité en tant qu'homme. Voilà. Est-ce que je respecte les gens? Est-ce que quand je dis quelque chose, je le fais? Est-ce que je dis la vérité? Voilà. Moi, je veux pouvoir me regarder dans une glace. Je veux pouvoir regarder mes parents dans les yeux et je veux pouvoir regarder mon grand-père quand ce sera fini dans les yeux. Donc ça, c'est le côté homme, le côté professionnel. Il y a 20 millions de Maliens, mais il y a 20 millions de sélectionneurs. Donc, il y en a 5 millions qui veulent jouer en 4-3-3. Il y en a 5 millions qui veulent jouer en 3-5-2. Et puis, il y en a 10 millions qui veulent jouer en losange ou il n'y en a qu'un million. Mais aujourd'hui, moi, je suis responsable de cette équipe. C'est moi qui fais les choix. Je ne suis pas moins bête qu'un autre entraîneur.
Plus de 200, c'est sûr.
Plus de 200 millions d'habitants au Nigeria.
De
sélectionneurs.
Non, habitants, c'est 236 millions, mais non, sélectionneurs,
en plus,
200.
En plus, c'est le Nigeria, le contexte sportif du Nigeria, c'est quand même compliqué parce que, vous l'avez dit, il y a un bel effectif, pas sur toutes les lignes, mais est-ce que les joueurs s'entendent entre eux? Est-ce qu'il y a des clans? Il y a des joueurs qui sont en train de prendre une envergure. Osimhen est sur la pente descendante quand Lookman est l'inverse. Est-ce qu'à l'intérieur, il ne va pas y avoir...
Là, sur les 6 derniers mois, mais je pense qu'Osimhen n'est pas fini.
Osimhen n'est pas fini, mais enfin, sur les 6 derniers mois, sur la dernière saison, il est un petit peu moins sur la bande pente. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de leadership au sein du groupe? Est-ce que les mecs se parlent? C'est très nébuleux. Et aujourd'hui, je dis, est-ce que Eric Schell est l'homme pour gérer tout ça?
Vous avez
j'ai
des
un gros doute.
Philippe, Eric Schell, on l'a écouté là. C'est vrai que quand il était à la tête du Mali aussi, alors bon, il n'est pas toujours très souple en conférence de presse. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir des idées très, très carrées. Il avait quand même imposé un style de jeu à cette équipe du Mali. Et on se souvient de son désespoir. Bon, quand ils sont éliminés par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était tellement illuminée par cette CAN.
L'énergie du miracle.
Voilà, qu'ils perdent de très très peu et ils sont éliminés en quart de finale, mais peut-être qu'ils n'auraient pas dû en temps normal. Et est-ce que quand même il n'y a pas des espoirs sur ça de mener? Parce qu'on a l'impression que certes ils sont allés en finale de la CAN, ces joueurs, ces Super Eagles, mais qu'il manque quelque chose dans le groupe ou dans l'esprit de groupe ou dans l'élan.
Oui, c'est vrai que je les ai vus en novembre. J'ai été les voir à l'entraînement et en match contre le Bénin. On est toujours surpris avec le Nigeria, on a toujours l'impression qu'ils sont là en récréation, que c'est cool, quoi. C'est relax.
Un peu trop peut-être.
Complètement. Par moments, c'est vraiment beaucoup trop relâché, offrant des occasions adverses. on voit des joueurs discuter entre eux sur une action, alors que l'action est en cours, ils sont en train de discuter, en train de s'engueuler un peu de l'action précédente. C'est un peu particulier, le Nigeria, à ce point de vue-là, et ça explique pourquoi cet immense pays est de football et en... économiquement et dans tous les critères en Afrique, n'arrive pas à être régulier à un haut niveau de performance. Je pense que Shell a le caractère, très certainement. Mais pourra-t-il s'imposer dans ce pays où il y a beaucoup de caractère, justement ? Est-ce qu'il pourra s'imposer ? Est-ce qu'il aura la personnalité ? Il a la personnalité, je pense. J'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est pas toujours facile d'être reçu comme tel par des joueurs qui sont pour certains des stars. Donc c'est pas une évidence. D'autant que là, il y a une urgence, quoi. En mars, ils ne font pas 4 points, minimum, c'est même pas la peine. Quoi. L'Afrique du Sud sera devant, à coup sûr.
Et tu ne comprendrais pas que sur une Coupe du Monde à 48, un des pays africains qui a peut-être le plus participé à une Coupe du Monde, il y a le pas.
Exactement.
Participation, le Nigeria.
Et qui allait au moins souvent en 8e de finale, dans des temps plus compliqués.
Il a plusieurs fois passé les poules. Non, moi, je pense qu'Eric Schell a un peu le charisme et il en impose. Pour ça, oui. En revanche, il lui manque deux choses. Il lui manque l'expérience, parce que malgré tout, sa carrière en Afrique n'a démarré qu'en 2022. Avant,
il a très peu joué.
Il n'a pas de carrière en Afrique. Il a 5 sélections avec le Mali, donc il n'a pas des heures de vol très longues en Afrique. Et puis, il y a quand même
c'est un jeune entraîneur.
Je ne sais pas, je pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il connaît l'environnement anglophone très particulier du Nigeria, qui est en plus un État fédéral avec des réalités ethniques qui peuvent être variables selon les joueurs
et donc tout ça,
c'est dur à appréhender. Est-ce qu'il s'est préparé à ça? Est-ce qu'il est au courant depuis quelques semaines?
Il a
3
mois.
Le Mali n'est pas simple. Il s'est bien entraîné.
Effectivement, mais le Mali, il avait déjà de l'expérience en tant que jeune homme. Il avait des racines maliennes. Le Nigeria, c'est autre chose. Donc, c'est ma question.
Mais en même temps, ça peut donner une certaine distance.
Le défi du Nigeria, Philippe l'a un peu abordé, c'est que c'est une équipe qui peut faire des coups en phase finale parce que ce sont des compétiteurs. Et on l'a vu à la dernière CAN, Pesero, au bout du premier match, a trouvé la bonne formule tactiquement et l'équipe a marché du tonnerre. Mais si le problème, c'est une équipe dilettante et qui peut se laisser totalement engluer dans la médiocrité lors des éliminatoires. Et c'est ce qui est arrivé en Coupe du Monde avec ses 3 points en 4 matchs dans un groupe facile.
Déjà, celle de la CAN, ça n'a pas été simple pour se qualifier déjà.
Enfin, c'était à Abidjan le match, c'était pas au Bénin. Mais
ils ont joué la facilité.
Le match au Bénin, déjà... Ils doivent perdre ce match. Ouais. On se dit, mais quel pourcentage ils ont tiré de leur qualité à la fin du match? On se pose vraiment la question. C'est du 30%, 40% maximum.
C'est très frustrant comme
équipe. Frustrant. Même Gernot Rohr en parlait en disant c'est incroyable. Par moments, ils sont dilettantes, mais à un point. Et puis, ils connaissent bien le sujet puisqu'il les a entraînés depuis plusieurs années.
Exactement. Et là, malgré tout, effectivement, leurs forces sont principalement offensives avec l'armada de joueurs exceptionnels, Lookman, Osimhen en tête, mais il y en a d'autres. Mais je trouve qu'ils ont réussi à atteindre un certain équilibre lors de la dernière CAN, avec notamment Bassé en défense, avec Nwabali dans les buts.
Aina est bon, trusté.
Aina qui est fantastique avec Nottingham Forest, on va en parler après. Mais malgré tout, c'est une équipe trop dilettante. Et est-ce que Shell va arriver à inculquer à cette équipe un état d'esprit qui fait qu'elle sera aussi irrésistible qu'on peut l'attendre à tous les matchs? Ça, c'est son défi, à mon avis. Et j'espère qu'il réussira pour le Nigeria et pour lui.
Écoutez, on suivra évidemment et avec une grande attention ces journées de qualification en Coupe du Monde, les journées internationales FIFA, ça sera à la mi-mars. Allez, on revient au championnat anglais, parce qu'il se passe toujours quelque chose, n'est-ce pas, de l'autre côté du Channel. Et voilà qu'un club nous surprend. British, cette chanson. Alors, que de rouge sur le podium de la Premier League actuellement. Les Reds de Liverpool sont toujours premiers. Derrière, les Red Gunners d'Arsenal sont à la deuxième place, mais ils viennent d'être rejoints par les Reds des Midlands, cette région du centre de l'Angleterre, entre Sheffield et Birmingham. D'ailleurs, les Rouges de Nottingham Forest sont la première équipe au monde à avoir joué en rouge. Comme quoi, ils avaient osé à l'époque. Et d'ailleurs, leur surnom est assez étonnant. Vous savez d'où vient ce rouge ?
Oui.
Oui, Garibaldi.
Quelque part en Italie.
Garibaldi.
Exactement, parce que le club a été fondé en 1865 et à cette époque, eh bien, le Che Guevara de l'époque s'appelait Giuseppe Garibaldi et c'était le Risorgimento, n'est-ce pas ?
L'une des plus belles places
de l'unité de l'Italie.
L'unité de l'Italie. Mais Nottingham, c'est aussi la ville de...
Brian Clough. Ah non, le shérif.
Robin des Bois.
Oui, enfin le shérif surtout.
Robin Hood. Il y a plein de choses dans cette ville. Bon.
L'ignoble shérif.
En tout cas, ce club, on va en parler. Qui sont-ils ? Eh bien, il faut savoir qu'ils ont été une seule fois champions d'Angleterre, mais quand même, c'était dans les années 75-80. Et ils ont remporté, effectivement, d'Angleterre.
C'est le seul.
Oui,
voilà. C'est un fait et unique. Ensuite, ouais, incroyable. Écoutez,
plus c'était... de Ligue des Champions que de titres.
La,
c'est
dernière... La dernière fois, oui. C'est ça.
C'est une question de quiz.
C'était en 1980.
That's the whistle. Nottingham Forest defend their European Cup title. Joan Robertson's goal has decided this in the Spanish capital. It's further joy for English clubs in Europe and further joy for Nottingham Forest on the biggest of European football stages.
Il l'avait emporté 1-0, c'était donc en 1980. Alors une équipe qu'on n'a donc pas trop l'habitude de voir dans ses hauteurs de Première Ligue désormais, ils avaient d'ailleurs terminé la saison dernière à la 17e place. Mais les voilà qui déboulent sur le podium après 6 victoires consécutives. Eh bien de quoi rassurer l'entraîneur, c'est le Portugais Nuno Espírito Santo, on le connaît bien parce qu'il est allé gagner à Wolverhampton où il avait entraîné durant 3 saisons avant aussi d'aller se risquer du côté de Tottenham notamment.
We must congratulate our players.
Nous devons avant tout féliciter nos joueurs, parce qu'ils le veulent. Ils s'entraînent pour ces moments. Nous voulons tout donner pour nos fans. C'est pour cela que nous travaillons dur. Les joueurs sont fatigués, mais heureux, sachant que nous devons repartir avec le même esprit pour le prochain match de Première Ligue. C'est très important pour nous. Nous devons nous battre encore. C'est tout ce qui compte.
Nothing else matters. Let's compete, let's play.
Grand David Finzel à la traduction, bien sûr, acteur studio hein, chez nous à Radio Foot. En tout cas, le prochain match auquel il fait allusion, Nuno Espírito Santo, c'est mardi prochain. Ils recevront Liverpool.
Ouais. Énorme.
On en salive déjà, Philippe ?
Ah oui, oui, d'abord parce qu'au match aller, c'est les seuls qui ont fait tomber Liverpool cette année. Ils ont eu un peu de réussite, mais ils ont marqué à la fin. Ils ont gagné à Anfield 1-0 le match aller. Et c'est la seule défaite de Liverpool de la saison, toute compétition confondue, si je me trompe d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis oui, pour Nottingham, c'est génial parce que là, ils sont au sommet. Ils viennent de gagner 6 matchs de suite. Et ils sont deuxième ex aequo, enfin troisième de la Première Ligue. Et le match à venir, c'est Liverpool qui est leur ennemi, le grand ennemi des années 78-80. Mm-hmm. Donc c'est génial, le rendez-vous tombe à pic au City Ground.
Naïm, excusez-moi. Naïm, qui sont les joueurs qui font briller ce club actuellement ? Parce que quand on dit Nottingham Forest, pour nos auditeurs,
oui,
en tout cas, on ne voit pas trop.
C'est ça qui est particulier, c'est que justement, il n'y a pas de grande star dans cette équipe.
Il y a des noms un peu connus.
Il y a des noms un peu connus, oui. Il y a Chris Wood, qu'on a connu à une époque, et puis il y a Elliot Anderson. Personne, voilà, il y a
enfin dans les...
il y a Matt Sells qu'on a connu en France dans les buts.
À Strasbourg.
Si on fait le comparaison avec les équipes du haut de tableau en Angleterre, il n'y a pas réellement de...
Voilà, c'est ça.
Il y a des joueurs qu'on connaît de nom parce qu'ils ont joué dans des clubs importants qui sont passés par la France, mais il n'y a pas de grande star. En fait, la vraie star, c'est l'entraîneur, c'est Nuno Espírito Santo, qui reste sur 2 contre-performances entre Tottenham et l'Arabie Saoudite, qui vient un peu se refaire la cerise. Voilà. C'est une équipe avec un effectif...
Et qui est un sacré entraîneur. Hein.
Oui, avec Wolverhampton, c'était une des équipes qui jouait très bien en Angleterre à l'époque.
Ouais.
Bon, c'est une équipe, je ne suis pas un grand friand de son jeu, je ne suis pas un grand friand du jeu qui en fait finalement c'est une équipe qui prend peu de buts et pas pour un promu et pour une équipe de ce calibre.
Oui, c'est la deuxième meilleure défense.
Quasiment, ouais, avec Liverpool à égalité justement. C'est une équipe qui prend très peu de buts et pour des équipes de ce calibre c'est plutôt rare en Angleterre, surtout dans un championnat où il y a quand même des grosses armadas.
9 clean sheets dans
quand même beaucoup moins que les autres à ce niveau-là. Mmh. Donc voilà, c'est Chris Wood, c'est Hudson Odoi, c'est Matt Sells, c'est Aina, voilà. Il y a des joueurs qu'on connaît, qui ne sont pas des grandes stars mais qui permettent à l'équipe de faire une bonne saison. Beaucoup plus que ce qu'on est en droit d'attendre, puisque là on parle de Ligue des Champions, parce qu'ils sont, sont troisième, mais la vérité c'est que même s'ils font une Conference League en fin de saison, ça serait déjà un exploit formidable.
Ben oui.
Surtout vu la saison.
Justement, Patrick, on les voit débouler sur la, la troisième place pour l'instant du podium. Alors ils sont à égalité avec Arsenal, c'est différence de but.
Très loin en différence de but.
Exactement, très très loin, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut se dire, c'est une équipe, derrière on a Newcastle, derrière on a Chelsea, est-ce que vraiment c'est quelqu'un, c'est
City,
un club...
City, n'a pas oublié City.
Moi je trouve qu'ils sont consistants.
Qui peut en tout cas, tenter de changer, de troubler le Big Four un peu habituel.
Moi, je pense que oui, parce que d'une part, ils ont un effet... On parle de club modeste, mais c'est modeste à l'échelle de la Première Ligue. Oui. Donc, ils ont un effectif quantitativement pas mal.
Mm-hmm.
Donc,
attention, ils, ils mettent un pognon dingue sur
le
mercato.
Oui, c'est ce que je dis. Mais évidemment, ils ont mis, c'était un des plus gros mercato la saison dernière.
Les deux saisons où ils sont.
Oui, voilà, c'est ça.
Les deux dernières saisons où ils ont fini 16e et 17e.
Ensuite, je trouve qu'ils ont. Alors, oui, le style de jeu, c'est la réhabilitation un petit peu de façon modernisée du kick and rush. Et je vous invite à aller voir le dernier but que.
Grimace à votre droite.
Forest a marqué. Ah non, non, le dernier but contre Wolverhampton, le but de Awoniyi, c'est un dégagement de gardien digne des années 70 où il met une énorme patate dans les airs. La balle rebondit et en deux passes, il y a une, un centre en retrait et un but. Hein. Donc c'est, ils ne s'interdisent pas ça. Je trouve que c'est un foot qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir.
C'est une équipe de transition moderne qui sert un peu plus.
Mais il y a parfois du football un peu plus antique que ça et c'est bien. Et ensuite, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un point commun, c'est qu'ils sont revanchards. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu mis de côté par des gros clubs, comme Elanga, par exemple, à United, et qui sont allés se relancer là-bas et qui ont trouvé dans Espirito Santo, qui est lui-même, comme nous l'a dit justement Naïm, très revanchard. Et tout ça fait un cocktail intéressant qui, à mon avis, les mener à une place européenne. Je dis pas sur le podium, mais à une place européenne, je les vois bien tenir, moi, sur la saison.
Naïm.
C'est complètement fou, c'est que cette équipe qui a mis 29 buts en Première Ligue, il y en a 12 pour Chris Woods.
Oui.
Chris Woods, c'est un attaquant néo-zélandais, pour ceux qui ne connaissent pas, un attaquant néo-zélandais qui a bourlingué pas mal en Angleterre, qui s'est révélé un peu sur le tard.
Burnley.
Il fait la carotte, quoi.
C'est les gros, les grands moments de sa carrière, c'est Burnley.
Ouais,
quoi.
Voilà, c'est là où il s'est révélé un peu sur le tard, c'est bon.
Il a plus joué en championship qu'en première ligue. C'est un type
voilà, qui court partout, qui est costaud, qui est dur au mal, qui est machin, mais ce n'est pas un grand joueur, qui est en fait assez symbolique
c'est
de cette équipe. C'est un laborieux.
Oui, mais on se souvient Leicester de...
Jamie Vardy.
Jamie Vardy.
Non, c'est au-dessus
de
Jamie Vardy.
Non, un peu plus mais c'était pareil, c'était quelqu'un qui venait de championship.
Oui, qui venait des divisions plus inférieures, qui avait un peu bourlingué, mais il y avait quand même un effectif, je pense, un peu plus qualitatif. Et la carrière des uns et des autres à Leicester...
Évidemment, je suis d'accord.
Pas si sûr.
Non, mais je parlais du buteur.
Kanté, Mahrez,
après que Kanté, Mahrez et autres touchent des gros clubs.
Là dans l'effectif,
à Leicester,
dans l'effectif de Nottingham Forest, qui va faire une carrière à la Kanté ou à la Mahrez? Pas grand monde.
En tout cas, Gibbs-White,
vous n'avez pas cité Gibbs-White, c'est un joueur qui
capitaine de l'équipe,
qui est déjà international.
Et vous avez cité un Nigérian,
Ola Aina, sur le côté droit, un excellent latéral, peut-être qui était le meilleur latéral droit de la dernière CAN. Il y a Taiwo Awoniyi aussi.
Je vous laisse le dire.
Voilà, qui a remis un but après 20 matchs sans marquer.
Remplaçant de Wood.
C'est un joueur qui a été longtemps à Liverpool et qui était prêté chaque année à droite, à gauche. Et
si
qui a joué à l'Union Berlin
si
aussi.
Si on
qui
veut
a
parler
Bourlingué,
des joueurs et de l'effectif, il y a Matsels qui est passé
un
par
des
Strasbourg,
meilleurs gardiens de la saison.
Qui est un gardien fantastique.
Belge.
Dont on peut se dire pourquoi il n'est entre guillemets qu'à Nottingham Forest.
Et pourquoi il ne joue pas plus avec la Belgique quand Courtois n'est pas là.
Ah, mais ça, c'est la Belgique que j'ai arrêté de dire.
On demandera à nos amis belges.
Philippe, moi, j'ai une question. On dit qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Alors, on parle souvent des propriétaires de ces clubs en Angleterre. Qui est derrière Nottingham Forest?
Alors, c'est un Grec, en l'occurrence.
Un armateur.
Evangelos Marinakis.
C'est Marinakis, mais c'est quoi le prénom?
Evangelos.
Evangelos, oui, c'est ça.
C'est un
armateur grec, bien sûr.
Voilà.
Sinon, il ne serait pas... pas grec, sinon. Donc, il y a armateur
ça va ensemble,
grec.
Hein.
Et,
non,
c'est
pour
le propriétaire, et c'est le propriétaire de l'Olympiakos, parallèlement, l'un des clubs du Pirée, d'Athènes, en l'occurrence.
Ça devient
et
la mode hein, d'avoir deux clubs.
Club connu également pour un trafic de joueurs dans un sens comme dans l'autre.
Donc, oui, et puis, bon, on connaît, nous, Christian Carambeu, Modesto, Anigo, qui ont tous joué leur rôle en termes de recrutement.
Il y a
Pierre Issa, exactement, également, le Sud-Africain, qui sont tous venus de la Ligue 1 et qui ont tous joué un rôle, soit comme ambassadeur du club pour ce qui est de Carambeu, mais pour les autres, c'est davantage pour le recrutement, etc.
Un
recrutement des clubs. Et d'ailleurs, il y a des joueurs qui sont passés de l'Olympiakos à Nottingham Forest, etc. Mais c'est surtout quand Nottingham Forest a déliré Quand ils sont montés, ils ont mis, je ne sais plus, pas loin de 200 millions d'euros
non,
de
vous
livres.
Avez acheté des...
C'était
oui,
complètement
oui.
délirant.
Et résultat,
ils ont fait 16e. L'année d'après, ils ont remis des tas de joueurs, etc. Ils ont fait 17e, c'était encore pire. Et puis cette année où ils ont été un peu plus raisonnables et davantage ciblés, ils ont fait de très bons recrutements derrière.
Milenkovic, ils ont pris
Anderson au milieu. Anderson au milieu, Milenkovic. Ils ont rajeuni l'équipe. Et ils ont rajeuni l'équipe et mis un peu de 109 de bonne qualité, comme Milenkovic, Murillo aussi, le défenseur brésilien,
très bon joueur.
Et Anderson au
meilleur
milieu.
Que celui de l'OM.
Et du coup, avec trois joueurs de plus, parce qu'ils n'ont pas beaucoup recruté cette année, c'est beaucoup plus équilibré.
Ouais, mais ça fait penser à Chelsea qui recrutait.
Et qui s'est arrêté.
Et au bout d'un moment, se dit concentrons-nous sur le sportif.
Concentrons-nous sur les joueurs qui sont là et on va voir comment on peut faire une équipe. Exactement. C'est un peu le même.
Ils ont fait un bon tri.
Un bon tri, voilà, que ce soit Chelsea et Nottingham Forest.
Alors, ils ont rejoint les Gunners et justement ces Gunners stoppés hier soir par les Magpies de Newcastle sur leur propre terrain.
João Pedro restores parity. Brighton have their first goal of the new year and they are level against Arsenal.
Un partout entre Brighton et Arsenal. Oui, Arsenal continue d'être invaincu. Ça fait 10 journées d'affilée et à l'arrivée, bah, ce sont deux points de perdu qui peuvent coûter très cher dans la course au titre.
Bon, c'était un autre moment où Arsenal n'était pas très bien. Philippe, finalement, ce Arsenal, est-ce qu'ils ressortent un peu trop fatigués du Boxing Day, eux ?
Ils ne sont pas dans une période extraordinaire, Arsenal, tout simplement. Hier, ils n'ont pas fait un si mauvais match que ça. Ils ont juste été un petit peu mous défensivement, un peu dilettantes, et ça coûte très cher contre une équipe hyper accrocheuse de Newcastle qui a été remarquable en termes d'état d'esprit, d'opiniâtreté, d'abnégation totale. Ça a été une équipe vraiment à l'anglaise, mais avec vraiment un cœur extraordinaire. Donc, ils ont mérité quelque part ce succès. Pour autant, c'est pas encore gagné parce qu'il y aura un match retour. Et Arsenal est tout à fait capable, sur un meilleur jour que là, en termes d'efficacité notamment, ils sont tout à fait capables de renverser Newcastle.
Mm-hmm. On l'avait souligné qu'ils avaient un calendrier difficile en plus, Arsenal, ouais. En comptant Coupe d'Europe, l'enchaînement Coupe d'Europe, Boxing Day, Cup et ainsi de suite, ça allait leur faire du mal. C'est un effectif. Le problème, ils ont des joueurs de qualité, mais si tu prends un effectif qui est moins fourni un petit peu que les autres.
Oui. Je précise,
Saka n'est pas là en
ces deux points perdus contre Brighton, c'était en championnat.
Oui, bien
alors
bien
qu'hier soir, c'est vrai que
Carabao Cup.
Hier soir, c'était la demi-finale, la Ligue Cup.
Oui, demi-finale allée de la Coupe de la Ligue. Et donc, deux buts de retard quand même, c'est lourd.
Patrick, est-ce que Arsenal, j'adore Arteta, j'adore ce qu'ils font avec ce club, mais est-ce qu'une fois de plus, on ne se dit pas. Ils sortent du Boxing Day et puis après, ils ne tiennent pas trop la distance championnat.
Je pense que cet effectif est un peu lessivé. On a parlé du recrutement pléthorique de Nottingham Forest qui a un peu fait n'importe quoi. Je pense qu'Arsenal...
Parce que là, on se disait,
au contraire,
Manchester City qui avait un moins bien, bah Arsenal pouvait en profiter et non.
C'est un peu... Arsenal, ça plafonne un peu. Et je trouve qu'il y a un problème particulier d'efficacité. C'est-à-dire que dans le contenu, ça reste
très décent. Mais c'est un problème qui se répète.
Mais oui, il y a un problème. Je pense qu'ils ont intérêt à peut-être régénérer un peu l'effectif au mercato en amenant des joueurs nouveaux en attaque, parce que je trouve que ce qui est présenté aujourd'hui, en l'absence de Saka, qui était vraiment l'un des principaux détonateurs sur le début de saison, je trouve qu'il plafonne. Je trouve que ça,
Philippe,
voilà, c'est frustrant les contenus en fait.
Arsenal prend quand même à chaque fois des équipes qui sont stratosphériques, parce que suivre le City de l'année dernière et d'il y a deux ans, c'est costaud. Suivre ce Liverpool là, pardon, c'est costaud. On regardera le nombre de points.
Mais à un moment, ils sont costauds
généralement très tard dans la saison. Arsenal quand même, Annie, quand vous faites deuxième comme ça.
Deuxième, c'est pas mal. Hein.
Ah oui, deuxième en Angleterre. Tu prends le nombre de points avec lequel tu fais deuxième en Angleterre. Tu regardes, t'es probablement champion dans les autres championnats aussi.
Là, on parle pas en termes de résultats. Je suis d'accord sur les résultats, c'est costaud. On parle en termes de progression.
Oui.
Et je trouve que cette équipe cette année plafonne un peu. À la fois physiquement et dans l'efficacité.
Oui, voilà. Elle plafonne à un niveau assez élevé.
Bon niveau, mais
faut quand même dire les choses. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à passer le cap supérieur. Bon, le fait est, il faut quand même le reconnaître parce que
ils sont toujours si près.
Parce que Liverpool, par exemple, arrive davantage à passer ce cap une fois de temps, pas toujours, pas tous les ans, mais ils arrivent davantage à passer ce cap. Voilà, c'est la faiblesse d'Arsenal.
Il faudra
qu'ils regagnent une fois qu'ils auront regagné.
Et puis, ils ont ce qui manque à Arsenal, c'est l'individuel. mentalité. Non, mais oui. L'individualité qui est au-dessus du lot.
C'est ça.
Quand City fait le titre, ils ont Haaland quand il est bu, comme on n'a jamais vu. T'as un Salah cette année qui est monstrueux.
Ballon d'or.
Voilà. J'espère.
Ah, c'est bien. On pourra en reparler de cette première ligue d'ici peu. Merci à tous. Merci.